Annette et le criminel, chapitre 7. Le jour fixé pour l'union de Mademoiselle Adélaïde Servigné avec Monsieur Célestin Bouvier approchait, et tous les préparatifs de cette solennité conjugale se faisaient sans qu'il en coûtât beaucoup, car la boutique de Madame Servigné avait fourni tout le trousseau de la mariée, et les deux cousines y travaillaient sans relâche. Un matin, elles étaient toutes les deux dans le comptoir, lorsqu'un homme, d'une figure peu revenante, entra, et sous le prétexte d'acheter diverses marchandises, il resta beaucoup plus de temps qu'il n'en était besoin, causant avec M. Bouvier et s'informant de la famille. À quand le mariage? Quelle était la mariée? Etc. Annette, qui avait de la répugnance à se tenir dans la boutique, était toujours cachée entre les marchandises étalées et baissait la tête le plus qu'elle pouvait. Ce qui, par parenthèse, occasionnait une guerre sourde entre elle et Adélaïde, qui, l'accusant de fierté, lui demandait 1000 petits services dont elle aurait fort bien pu se passer. Annette, aux questions multipliées de l'étranger, l'examina. Et, au moment où il allait se retirer, elle remarqua qu'il portait à son cou un cordon de montre de femme qui ne lui était pas inconnu. Ce fut quand il sortit qu'elle se rappela que ce cordon en cheveux était celui de la montre de Pauline. Elle soupçonna l'acheteur d'être un des brigands de la forêt. Les brigands la firent penser à l'étranger et à tout ce qui s'en était suivi. Son apparition singulière dans l'église, le présage que lui avait fourni son livre de prière, et surtout le carreau de mort sur lequel elle s'était assise. Enfin, Annette, par-dessus tout, remarquait que son voyage avait été rempli d'événements presque tous malheureux. L'étranger avait manifesté de l'aversion pour son cousin, de son côté, elle en avait ressenti pour M. Bouvier. Elle, comme lui, avait eu le même geste de répugnance. Sa cousine ne lui plaisait pas, sa tante épousait la haine d'Adélaïde. Enfin, elle était dans une gêne singulière en habitant cette maison. Cette rêverie, à laquelle Annette était souvent en proie, portait un singulier caractère de peine et de souffrance, au milieu de laquelle le souvenir et l'image de l'étranger venaient se mêler sans y apporter beaucoup de charme. Le soir, Charles reçut une lettre pendant le souper et parut en proie à une joie qu'il dissimulait avec peine. Au dessert, il annonça que, par le crédit du duc de N, il venait d'être nommé à la place de procureur du roi près le tribunal de première instance de Valence, et qu'on allait, au moment où la personne lui écrivait, en expédier la lettre de nomination, etc. « Ah, oh, grand Dieu, mon cher fils !» s'écria la mère Servigné. « Te voilà dans les honneurs ! Diable, mais tu vas tenir un rang ! Sais-tu que j'ai des papiers qui prouvent qu'avant la Révolution, nous étions nobles, et que mon grand-père allait aux États de Languedoc ? Tu peux t'appeler de Servigné, mon enfant, et nous quitterons le commerce pour ne pas te faire honte, ou nous le ferons en gros. » « Oh, mon frère !» reprit Adélaïde en profitant d'une respiration de sa mère. « Que je suis aise ! Laisse-moi donc t'embrasser !»« Mon neveu, » dit Madame Gérard, « recevez mes compliments. Vous voilà un pied dans l'étrier. Continuez et faites fortune. On ne vous souhaitera jamais autant de bien que moi. » Monsieur Bouvier enchérit encore sur les félicitations et finit en disant « Eh bien, cousine Annette, vous êtes la seule qui ne disiez rien. »« Ma fille, » reprit Madame Gérard, « n'a rien à dire, puisque Charles est son prétendu. »« Ce sont deux noces à faire, » répliqua Adélaïde. « Qu'en dites-vous, ma chère cousine ?» demanda Charles. À ce moment, tout le monde regardait Annette, qui, par son silence et la froideur de son maintien, avait attiré l'attention. « Elle se repent !» disait tout bas Adélaïde à son frère. « Mon cousin, répondit Annette d'une voix émue, vous savez ce que je vous ai dit à ce sujet. Rien ne peut changer ma résolution, à moins que le temps et votre conduite... « Vous êtes folle, cousine !» reprit Charles en regardant tout le monde et faisant un geste qui annonçait qu'il allait expliquer ce que ses paroles avaient de mystérieux. « Annette est fâchée contre moi et me boude parce que j'ai fait la connaissance de elle, la maîtresse du duc de N, quand elle est venue ici sous le nom de Pauline et qu'elle a voyagé avec nous. Je pardonne volontiers à ma chère cousine en faveur de son inexpérience du monde et des intrigues nécessaires pour arriver. Il faut ne pas connaître la société pour se fâcher d'une aventure aussi heureuse pour moi dans ses résultats. Et je vous demande à tous si je n'aurais pas passé pour un grand sot de ne pas profiter d'une circonstance pareille. « Et tu as bien fait !» s'écrièrent ensemble Madame Servigné, sa fille et son prétendu. Madame Gérard gardait le silence. « Charles, répondit Annette, cette dernière explication me confirme dans ma résolution. Je vous plains d'être arrivé par de tels moyens. Je souhaite qu'ils vous réussissent et que vous obteniez les plus hautes places. Vous avez assez de mérite pour les occuper. Mais vous perdez beaucoup dans mon esprit, et même trop, pour m'avoir jamais comme compagne dans la vie. N'accusez que vous-même de ce refus public, car vous ne deviez pas le provoquer d'après ce que je vous avais dit il y a peu de jours. Je serai éternellement votre ami, je disputerai à tout le monde ce titre, et je ne crois pas qu'on puisse vous aimer d'amitié autant que moi. Mais voilà tout ce que je puis vous offrir. Nous avons été assez frères pour que cette explication de famille n'ait rien d'offensant. Mais si quelque chose vous y blesse, je vous en demande mille fois pardon. Au surplus, le peu de fortune de mes parents me rendait un parti peu sortable pour vous, aussitôt que vous auriez obtenu une place dans l'ordre judiciaire, et celle que vous occupez est tellement élevée que je ne doute pas que vous ne trouviez dans votre union un autre moyen de fortune. Si je vous tiens ce langage peu séant dans la bouche d'une demoiselle, en ce qu'il a de la fermeté et une assurance beaucoup trop grande, c'est que la bonté que mon bien-aimé père et ma tendre mère ont pour moi m'ont fait croire que jamais ils ne disposeraient de moi contre mon gré. Annette avait parlé avec tant de modestie, une telle douceur de manière, une si grande tendresse de voix, que ses paroles eurent un charme profond, dont personne, excepté sa mère, ne fut touché. Enfin, son discours avait eu, de plus, l'importance qu'acquièrent les discours des personnes silencieuses. Aussi, Charles, ne s'attendant pas, d'après le caractère modeste d'Annette, à ce qu'elle le refusât aussi ouvertement, répliqua avec aigreur « Ma cousine est amoureuse du propriétaire de Durantal, et il n'est donc pas étonnant. »« Charles, » dit Annette avec le calme imposant de l'innocence, « ne commencez pas votre ministère par une calomnie. » Servigné resta comme atterré sous le regard d'Annette. On sent combien une scène pareille dut augmenter le froid qui régnait entre chacun. Aussi, le soir, lorsque Madame Gérard se coucha, sa fille eut avec elle une grande conversation, dans laquelle il fut convenu entre Annette et sa mère qu'elle partirait aussitôt que le mariage serait terminé. La noce devait se faire dans le local du restaurateur qui se trouvait dehors la ville et sous le berceau de tilleul où l'on avait prononcé le nom d'Annette. Madame Servigné aurait bien voulu célébrer la fête autre part, surtout depuis qu'elle savait que son fils était nommé procureur du roi. Mais sa maison n'offrait aucun moyen de parer à cet inconvénient, et les maisons de ses amis étaient tout aussi petites et rétrécies que la sienne. L'orgueil naissant de Madame de Servigné s'en tira en prétendant que la noce se ferait à la campagne. Enfin ce jour arriva, et les détails d'une telle solennité sont tellement connus que l'on ne trouvera pas extraordinaire qu'on en fasse grâce au lecteur. Qu'il suffise de savoir que l'on ne fit aucune faute d'orthographe dans les actes de mariage, que le prêtre n'oubliait pas de demander le consentement aux époux, que la mariée avait une robe blanche, vêtement que toutes les mariées singèrent de porter, que le marié paraissait content, qu'il y eut assez de monde à l'église, qu'il y en eut davantage au dîner, et nous arriverons alors à ce qui va intéresser beaucoup plus. Sur les 7 heures du soir, tous les invités se réunirent pour danser sous les tilleuls. Ces tilleuls étaient disposés en rond, de manière que leur feuillage formait un dôme de verdure et une salle où l'on dansait 1000 fois mieux que dans tout autre, car où la joie divine, peut-elle mieux s'épancher qu'en plein air. Là, sans que l'âme se rétrécit comme entre les murs boisés d'un salon, le ciel pour plafond, le soleil pour lustre, le sein d'une terre parfumée pour plancher, son gazon pour siège, qui diable n'eût pas dansé? Aussi dansèrent-ils avec cette franche gaieté du midi, avec cet entraînement d'âme qui ne se trouve que sous le ciel méridional. L'orchestre ne valait pas grand-chose. Le galoubet allait à faux, les ménétriers, s'ils avaient eu des airs notés, n'eussent guère distingué un solde avec un mi. Mais l'on sautait de côté et d'autre, comme si c'eût été la dernière fois que l'on dut danser sur le globe, ou que le lendemain l'on eût dû leur couper les jambes. Il y avait un monde fou, comme on dit quelquefois, et la joie du midi est bruyante. Bien des gens ne conçoivent pas comment l'on peut s'amuser sans cris, et les gens de cette noce étaient tous du parti des crieurs. Madame Servigné et beaucoup de personnes de la famille remarquèrent dans la foule quelques figures brunes et revêches, joyeuses comme les autres, mais un peu plus enluminées, et s'étonnèrent de ne pas les reconnaître. Plus d'une fois, Madame Servigné alla demander à son fils et à son gendre « Connaissez-vous cet homme-là ? » Et à ces questions, Charles répondait « Ah, dans une noce, les amis de nos amis sont nos amis !» Et l'on ne sautait que de plus belle. Annette se tenait toujours à côté de sa mère, évitant de danser le plus qu'elle pouvait, car cette grossière expression de joie, ce tumulte, ne convenait guère à son âme chaste, pure et contemplative, amie du calme et de la paix, comme de la recherche et de l'élégance. La nuit arrivant, l'on suspendit à chaque tilleul des quinquets pour pouvoir continuer le bal. À l'instant où l'obscurité devint assez forte pour que l'on eût besoin de ses lumières, les gens étrangers à la noce vinrent insensiblement se grouper autour d'Annette. L'un d'eux, très bien vêtu, l'invita à danser. La contredanse finissait par un tour de valse. Annette fit observer à son cavalier qu'elle ne valsait jamais. Alors, ce dernier lui dit très poliment qu'à chaque tour de valse, il se retirerait en dehors du cercle pour laisser valser les autres, et qu'après, ils reprendraient leur place pour figurer. Annette ne trouva rien d'extraordinaire à cette proposition toute simple. Pendant la première figure, son partenaire fit un signe à un autre homme, assez âgé et très bien vêtu. Et sur ce signe, il en fut rejoint. Annette trembla involontairement en le reconnaissant pour l'homme qui portait la montre volée à l'actrice. Elle fut d'autant plus troublée de cette circonstance que, par l'effet d'un hasard probablement combiné par son danseur, elle se trouvait loin de sa mère et placée du côté de la route où les voitures de ceux qui étaient invités à la noce étaient stationnées. L'inquiétude d'Annette n'avait rien de fixe. Elle était vague et ne pouvait porter sur rien, car elle ne se connaissait aucun ennemi. Elle était environnée de plus de 250 personnes, et rien ne pouvait faire croire à un malheur. Cependant, il y a de ces pressentiments qui en imposent, et qu'une jeune personne, du caractère d'Annette, était plus portée qu'aucune autre à écouter. Sa frayeur fut bien plus forte et ses craintes devinrent sérieuses lorsqu'elle s'aperçut, en examinant son danseur, qu'il tournait les yeux sur la route et qu'une des voitures, attelée de deux chevaux, s'approchait de l'endroit où elle dansait. Une idée vague que l'étranger voulait peut-être l'enlever se glissa dans son âme. Enfin, depuis que son partenaire dansait avec elle, elle entendait un bruit d'acier dont elle ne pouvait se rendre compte. Elle crut d'abord qu'il venait de l'argent qui sonnait peut-être dans sa poche, mais à force de l'examiner, elle crut, par les formes des instruments qui paraissaient dans la poche de côté de son habit, que c'était des pistolets. Annette, profitant alors d'un balance, y porta la main comme par mégarde et en acquit la preuve. Annette, effrayée, mais sans le faire paraître, dit à son partenaire qu'elle se sentait fatiguée, que, ne pouvant pas continuer, elle le priait de la laisser rejoindre sa mère. Son cavalier, avec politesse, y consentit, et, lui faisant observer qu'il ne pouvait pas traverser la contredanse, il lui donna la main et se mit en devoir de la guider en dehors du cercle vers la place qu'occupait Madame Gérard. Annette ne savait pas si elle devait le suivre et hésitait lorsqu'une dispute s'éleva de l'autre côté. Des cris se firent entendre et tout le monde se porta vers l'endroit où la querelle éclatait. À ce moment, la pauvre Annette sentit qu'on lui mettait un mouchoir sur la bouche. Elle eut beau se débattre, elle fut enlevée par deux hommes et portée vers la voiture sans qu'elle pût jeter un seul cri et sans que l'on s'aperçût de sa disparition, car l'obscurité, le tumulte, tout favorisa cet enlèvement. Cependant, la pauvre Annette se débattit avec tant de courage pour ne pas être mise dans la voiture que les brigands, craignant de lui faire mal, lâchèrent le mouchoir et Annette fit entendre des cris perçants qui attirèrent l'attention. Madame Gérard vint chercher sa fille et ne la trouva pas. Elle la demanda et personne ne put lui dire où elle était. Madame Gérard se mit à crier de son côté, la querelle finissait et personne ne voyait Annette. Le silence s'établit et la mère reconnut dans le lointain la voix de sa fille qui criait au secours. Mais bientôt les cris cessèrent et quoique des jeunes gens eussent couru dans la direction du lieu d'où la voix partait, ils ne virent rien. Cet événement fit suspendre le bal, et l'on doit juger du trouble et de la confusion que Madame Gérard répandit dans l'assemblée par ses plaintes et ses pleurs. L'indignation fut au comble, et sur le champ, quelques personnes montèrent à cheval, et sur l'avis que donna un domestique que les ravisseurs avaient pris le chemin de Durental, ils s'élancèrent sur cette route pour la parcourir. Lorsque Charles Servigné apprit cette circonstance, il en tira la conclusion qu'Annette était enlevée par l'étranger de la voiture. Il la communiqua à sa mère, qui le redit à sa fille, qui le dit à son mari, de manière que tout le monde fut bien persuadé qu'Annette Gérard aimait le riche Américain, possesseur de Durantal, et que c'était ce dernier qui l'enlevait. Le nouveau procureur du roi fut secrètement joyeux de pouvoir commencer son ministère par une affaire dans laquelle Annette se trouvait compromise, et où, en paraissant la venger, il satisferait à son amour dédaigné, et surtout se vengerait du mouvement de mépris que l'étranger s'était permis dans la diligence. Ses pensées furent, malgré lui, dans son âme, et l'on peut dire qu'il y a peu d'hommes dans le cœur desquels elle n'aurait pas surgi. Pendant que la noce interrompue était en proie au tumulte et à la confusion, et que Madame Gérard pleurait sa fille, Annette criait toujours, emportée qu'elle était par cette voiture rapide. Elle voyageait par des chemins de traverse, et souvent ses guides parcouraient les champs ensemencés. Annette, voyant bien que ses cris étaient inutiles, se mit à pleurer, sans écouter de ce que lui disaient ses conducteurs. Ces derniers n'étaient plus les mêmes hommes qui l'avaient enlevée. L'un s'était trouvé à cheval en postillon et l'autre dans la voiture. Celui-là ne faisait aucune violence à Annette et seulement l'empêchait de se jeter par la portière de la calèche. Enfin, sur le sommet d'une colline, Annette aperçut deux hommes qui se promenaient. De loin, elle agita son mouchoir en appelant au secours. Elle crut voir ces deux ombres se mouvoir et l'un des deux courir avec une force et une agilité étonnantes. L'éloignement ne lui permettait pas de croire que l'on pourrait atteindre la calèche, et elle perdit toute espérance quand la voiture, entrant dans une gorge de montagne, s'arrêta devant un rocher creusé au fond duquel brillait une lumière. « Mademoiselle, lui dit son conducteur, ne craignez rien, il ne vous sera fait aucun mal, et dans quelque temps on vous ramènera à Valence et chez vous, sans que vous ayez à vous plaindre de nous. » Annette, sans répondre un seul mot, entra dans la caverne avec les deux hommes qui la gardaient. On la conduisit vers le fond, où elle distinguait avec peine un lit et quelques meubles. Il faisait humide, et le silence qui régnait lui permit d'entendre retentir sur la route, au-dessus du rocher, les pas précipités d'un homme. Elle était parvenue au lit. Une lampe éclairait faiblement quelques chaises et une table, et cette lueur rougeâtre se perdait sur les parois, de telle sorte qu'à 50 pas on ne distinguait plus rien. Annette, effrayée, ne disait mot, lorsque tout à coup un homme fond sur les deux gardes et les terrasse avant qu'ils aient pu se reconnaître. Il s'empare d'Annette, la prend dans ses bras, la serre avec une force étonnante. Puis il reprend sa course et franchit la caverne avec la même rapidité qu'il venait de mettre à la parcourir. Il sort, regagne le sommet du rocher et court à travers la campagne en emportant Annette tremblante. Cette dernière, pour ne pas tomber, avait été obligée de passer ses bras autour du cou de son libérateur, et lorsqu'elle fut sur le rocher, la lueur de la lune lui permit de reconnaître l'étranger de la voiture à sa grosse tête frisée si remarquable. Annette, alors, ne savait plus si c'était un libérateur ou un ennemi. Quoi qu'il en soit, elle ne cria plus et n'osa même pas se plaindre de la force avec laquelle l'Américain serrait ses deux jambes mignonnes. Il paraissait 1000 fois plus fort et n'avait rien à porter, tant il mettait de vitesse à franchir les espaces. Jupiter, enlevant Europe, n'était pas plus léger. Après un gros quart d'heure, pendant lequel l'étranger ne ralentit en rien son pas, Annette vit de loin une masse énorme d'arbres et les murs d'un parc. Elle y arriva bientôt, et l'Américain, la posant à terre avec précaution, tira une clé de sa poche, ouvrit une grille et dit à Annette « Vous voici à l'abri des poursuites de vos ravisseurs. » D'après cette phrase, la tremblante Annette n'eut pas autant d'inquiétude, et elle suivit l'allée sombre et tortueuse qui se trouvait devant la grille que son libérateur venait d'ouvrir. Ils marchèrent en silence, et éclairés par la douce lueur de la lune qui éclairait malgré le sombre toit formé par le feuillage. Annette ne savait que dire, et l'Américain n'osait même pas la regarder. Enfin, après une marche assez longue, Annette aperçut les tours d'un ancien château féodal, et elle ne tarda pas à y arriver. « Mademoiselle, dit l'étranger en modérant le volume de sa voix et tâchant de prendre des inflexions douces, je vous offrirais bien de vous faire reconduire à l'instant même où vous pourriez le désirer. Mais la nuit est avancée. Nous ne connaissons ni le nombre ni les intentions de vos ravisseurs. Et je crois, sauf votre avis, qu'il serait plus prudent de rester à Durantal. » Annette, interdite, ne sut que répondre. Elle regarda timidement l'étranger et baissa ses yeux en apercevant cette grande, mâle et terrible figure qui semblait déposer tout ce qu'elle annonçait de pouvoir et d'énergie à l'aspect d'Annette. La jeune fille en fut, en quelque sorte, flattée, et l'étranger, interprétant son silence, tira un sifflet et, sifflant 3 coups, fit venir 2 domestiques auxquels il demanda de la lumière. Il attendit avec Annette sur le perron jusqu'à ce qu'ils fussent revenus. Les 2 domestiques accoururent avec des bougies et guidèrent Annette et leur maître à travers les appartements, dans un magnifique salon qu'ils éclairèrent aussitôt. Tome deuxième. Chapitre 8. Annette fut surprise de la magnificence et du luxe qui éclataient dans le salon où elle était alors. La rapidité des événements qui venaient de se passer ne lui laissait pas le loisir d'une réflexion bien profonde, et elle ne pouvait que se laisser aller à ce mouvement machinal des sens qui, dans les circonstances les plus grandes de la vie, produit souvent des choses singulières, telles que le silence de l'aberration quand il faudrait parler, et le langage de la folie quand il serait urgent de se taire, le rire au lieu de la gravité, et la gravité au lieu du rire. Annette était assise sur un fauteuil de velours noir, couleur de mauvais présage, qu'elle abhorrait, et dont par la suite elle se rappela le triste augure en des moments bien critiques. Une table de marqueterie très riche la séparait de l'être extraordinaire qui, depuis 8 jours, errait dans ses méditations sans en être l'objet principal, absolument comme dans la tragédie de Corneille, dont la mort de Pompée est le sujet. Ce grand homme, Voltige, remplit la scène, tout mort qu'il est, et semble éclipser César triomphant. L'étranger, le coude appuyé sur la table, ne disait mot et paraissait embarrassé. Annette, toujours tremblante, gardait le silence, et un spectateur, s'il y en avait eu un pour cette scène singulière, aurait cru qu'entre ces deux êtres, il s'agitait un fantôme qui les dérobait l'un à l'autre. Alors, Annette, jetant un furtif regard sur son hôte, et voyant sur sa figure les marques d'un combat intérieur, fut frappée une seconde fois de l'idée qu'elle était en quelque sorte à sa discrétion, et la terreur s'empara d'elle. L'Américain, de son côté, semblait en proie à une situation si violente que son caractère s'en démentait. Cette figure énergique et audacieuse prenait tous les caractères de la timidité, et bientôt des gouttes de sueur parurent sur son front, sans qu'aucune puissance humaine eût pu lui faire prononcer un seul mot. Il se contentait de regarder à la dérobée la jeune fille qu'il venait de sauver, et ses regards étaient empreints d'un feu si violent qu'il en paraissait terrible et sombre. Cette situation, précédée de tous les petits événements dont on vient de lire le détail, sans compter l'enlèvement extraordinaire et romanesque d'Annette, était d'un prodigieux intérêt pour les âmes de ces deux acteurs. Et il y avait quelque chose d'original dans leur mutuel silence, quoiqu'au fond, il soit très naturel dans les grandes émotions. L'étranger se leva, sonna, et demanda par son nom une demoiselle qui arriva bientôt précédée de l'ami du maître de la maison. Ce dernier, en entrant, lança un sourire presque moqueur sur Annette et son ami. Alors l'Américain, s'adressant à la jeune demoiselle, rompit le silence en lui disant de conduire Annette à son appartement et de veiller à ce que ses moindres désirs fussent satisfaits. Annette se leva, balbutia quelques mots et, saluant les deux amis, elle se retira, lentement, ayant recueilli un dernier regard de l'étranger, regard qui fut empreint d'une telle force qu'il alla jusqu'à son cœur. En fermant la porte du salon, elle entendit son libérateur dire à son ami avec un accent de dépit « Mille canons, j'aimerais mieux être devant une batterie et sûr de mourir même que devant elle. J'étais comme une cire qui fond au soleil, sans énergie et une honte !» Annette n'en entendit pas davantage, car elle continuait de marcher en suivant la femme de chambre qui la guidait à travers les appartements. La phrase qui venait de parvenir à son oreille suffisait pour lui révéler l'étendue de la passion de l'étranger pour elle, et l'expression brusque de ce sentiment ne pouvait guère déplaire à Mademoiselle Gérard. « Mademoiselle, lui dit sa femme de chambre en lui ouvrant une porte, vous voici dans l'appartement de madame... »« Que voulez-vous dire ? » répondit Annette en l'interrompant. car cette dénomination lui apportait une foule d'idées. « Mademoiselle, répliqua la jeune fille, c'est le nom de cet appartement. Avant que monsieur achetât ce château, cette chambre avait toujours été la chambre à coucher de la maîtresse de la maison. Et comme monsieur n'est pas marié, cet appartement reste inhabité. » Cette explication satisfit Annette, qui, fatiguée des événements de cette journée, s'endormit bientôt avec cette naïve confiance, l'apanage des belles âmes, qui fait que l'on croit difficilement au mal. Cependant, la conversation qui s'était entamée quand Annette sortit avait continué, et elle est trop intéressante pour que nous la passions sous silence. « Et, continua l'amant d'Annette, une honte invincible me faisait rougir et trembler. Je ne croyais pas qu'une jeune fille fût si imposante. « C'est que probablement tu l'aimes, lui répondit son amie, car tu n'as pas toujours eu les mêmes procédés avec Mélanie de Saint-André, dont ta vengeance a causé la mort. Franchement, il est difficile de reconnaître l'audacieux auteur de la révolte à bord de la Daphnie dans celui qui tremble aujourd'hui devant une jeune fille, surtout après avoir passé toute sa vie sans faire attention aux jolies princesses que nos camarades et moi-même avons festoyées. Tu avais raison d'avoir honte, tandis que tu devrais n'être occupé qu'à de grandes choses depuis une quinzaine, te voilà devenu moins qu'un vieux sac à argent tout vide. » Ici, l'Américain retourna sa tête vers son ami par un mouvement plein de grandeur. Il lui lança un regard foudroyant et lui dit « Je suis maître de moi, et je l'ai été des autres. » « Morbleu, tu l'es encore de moi !» reprit le discoureur. « Mais j'ai des droits sur toi en ma qualité d'ami dévoué. On ne sépare pas l'arbre de l'écorce, et je dois te dire que tu es dans un mauvais chemin. Que diable feras-tu dans ce pays? Qui prétends-tu? Est-ce à toi à pourrir à Durantal aux genoux d'une fille qui ne sera jamais ta maîtresse et dont tu ne feras pas ta femme ?»« Pourquoi pas ? » reprit-il vivement. « Si elle m'aime, si elle est digne de moi, pourquoi ne vivrais-je pas ici tranquillement avec toi, ma femme, mes enfants ?»« Mes enfants » répéta-t-il avec force. « Conçois-tu, après une vie aussi agitée et aussi terrible que la mienne, le bonheur de presser des marmots de ces mêmes mains qui ont serré si souvent la mort ? Vernier, nous sommes des gueux !»« Attends !» dit Vernier en se levant et regardant dans l'enfilade de pièces qui de chaque côté s'étendaient. « Bon, il n'y a personne. Continue. »« Nous sommes des brigands. Le regard de cette jeune fille m'a fait voir cela mieux que je ne l'avais jamais vu. Or, quand deux capitaines forbans, pirates, corsaires et féroces, comme nous l'avons été, se trouvent avoir atteint un port de salut, se voient au milieu de 10 millions, considérés ou prêts à l'être, c'est folie de ne pas rester tranquille, de ne pas se croiser les mains derrière le dos en contemplant le présent, sans regarder l'avenir, ni surtout le passé. « Tu le veux ? » dit Vernier. « Soit, mais 1000 cartouches ne restons pas en France, où à chaque instant nous pouvons être reconnus. Argot est signalé, et Vernier aussi. » « Argot peut l'être. » Ce n'est pas mon nom. Maxandy l'est aussi, reprit vivement Vernier avec un sourire. Et je ne me nomme ni Argot ni Maxandy. Qu'es-tu donc? Le diable? L'antéchrist? Quoi? Je suis, reprit Argot, je suis un enfant de l'amour. Mais en tout cas, l'on ne m'a pas fait beau. Pour te dire quels furent mes parents, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que je suis de Durantal. Et voilà pourquoi je veux rester en ce pays. Valence, comme tu le vois, est ma patrie. Ce sera, dit Vernier, désormais la mienne. Demain, continua Argot, demain, je puis savoir quel est le nom sous lequel on m'a baptisé. Car, en m'exposant sur la voie publique, on a eu soin de me mettre un petit écrit au cou. Et le matelot qui m'a trouvé, ce pauvre Hamelin l'a toujours conservé. à Charlestown, la veille d'être pendu, il m'apprit tout cela. Et lorsqu'il fut frappé à mort, il m'a remis ce chiffon de papier. Comme voilà la seconde fois que je viens ici depuis 3 ans, je n'ai pas encore songé à une pareille vétille. Car que l'on pende Argot, Maxendy, Jacques, Pierre ou Paul, cela m'est fort égal. Quand on dispute sa vie à chaque minute, on s'inquiète peu de son nom. Avant de penser à nommer son château, il faut l'empêcher d'écrouler. Cependant, sans savoir qui je suis, attendu que je suis propriétaire de Durandal, j'ai pris, par la grâce de Dieu et ma volonté, le nom de marquis de Durandal, puisque j'en possède le fief et que l'ancienne noblesse reprend ses titres. Du diable si l'on pense à chercher, dans monsieur le marquis, l'argot de la Daphnis. D'ailleurs, Badger est préfet ici. Il le sera longtemps, et j'espère que nous pouvons être tranquilles. « Monsieur le marquis, dit en riant Vernier, voudrait-il se donner la peine de chercher son papier et ses titres de noblesse ?»« Celui que nous appellerons désormais monsieur de Durandal se leva, et faisant tourner par un secret le dessus de la table en marqueterie auprès de laquelle il était, il prit une liasse de papier et se mit à chercher. « Depuis 2 ans et demi, dit-il, que nous sommes en France, nous avons toujours été comme des lévriers qui chassent aux renards, courant après nos vieux chiens de brigands pour les faire taire, achetant et visitant des propriétés. Je crois que voilà, depuis que je suis ici, le premier moment de repos. J'ai fourré là tous les papiers qui concernent la terre de Durandal, et je veux que le diable m'emporte si j'y trouve de l'ordre. » Il faudra, Vernier, que tu te mettes l'intendant. Voir les fermiers, parcourir les propriétés, les environs, nous mettre bien avec tout le monde. Ah, voici. Les deux amis s'approchèrent avec curiosité et lurent sur un parchemin tout crasseux et qui sentait encore le tabac du dépositaire la phrase suivante que l'on pourrait nommer une phrase baptistère. Jacques, né le 14 octobre 1786 dans la paroisse de Durandal, fils de S et de M, baptisé le lendemain par Monsieur M, curé du lieu. « Ton extrait de baptême est facile à trouver, » s'écria Vernier. « Mais tes parents ?»« Mes parents, » reprit le marquis de Durandal, « je n'en connais qu'un. C'est ce pauvre Hamelin qui me donnait du tabac, me faisait grimper sur les mâts, me barbouillait de rhum et de goudron. L'océan est mon berceau, les vaisseaux mélangent et le vieux matelot m'a nourrice. Si je l'eusse écouté, je serais resté honnête homme. Mais quand j'ai été pirate, il l'a été. Pauvre bonhomme, il m'aurait suivi au diable. « Tiens !» s'écria Vernier en frappant sur l'épaule de Jacques. « Tu as un charme d'homme qui est invincible. Mais écoute-moi, Jacques, puisque Jacques est ton nom, ne te marie pas. Prends cette jeune fille pour maîtresse et reste ce que tu es, un diable incarné, châtiant la terre, un instrument de fer que je ne sais qui fait mouvoir. De temps en temps, nous prendrons un brick et pour ne pas nous rouiller, nous irons nous dégourdir les doigts en frottant les Anglais ou les Espagnols. « N'importe qui, pourvu que nous sentions les boulets nous friser la tête. Et puis après, nous reviendrons ici tout joyeux. Tu retrouveras ta chère enfant, et moi la mienne. Elles viendront à notre rencontre. Elles nous conduiront ici, dans un petit paradis. »« Finiras-tu ? » reprit Jacques. « Et veux-tu ne pas me rompre la tête de tes sornettes ? Ma main ne se lèvera plus que pour ma défense. » Mon pied n'écrasera plus personne que pour ma vengeance. Enfin, je veux vivre en bourgeois de la rue Saint-Denis et épouser cette jeune fille. Entends-tu ? Voilà mon dessein. Il est là. » Et il montrait son front. « En ce cas, dit Vernier, c'est une affaire finie, n'en parlons plus. Mais me réponds-tu que Madame Jacques ne mettra pas à la porte l'ami du capitaine ?
Jamais cela ne sera de mon vivant. Ne sommes-nous pas frères ?
Allons, puisque je vivrai toujours avec toi, que nous serons toujours ensemble, le reste m'est indifférent. Bonsoir. Les deux amis se séparèrent en se donnant une poignée de main, et quelques instants après, tout dormit dans le château. D'après cette conversation, l'on doit voir que M. de Durental ne croyait éprouver aucune difficulté à épouser Annette, et il parlait de son amour et de ses desseins pour elle avec cette assurance qu'ont tous les gens habitués à ne trouver aucune résistance à leur volonté. Du reste, il n'est personne qui, riche comme l'était Argot, n'eût eu la même conviction. Cependant, Annette dormait, et son sommeil, par un effet du hasard, se trouvait empreint de ses pensées de la veille. L'influence qu'un rêve avait sur son esprit nous oblige à le raconter tel qu'il fut, et ainsi qu'elle le raconta souvent par la suite, quand elle récapitulait toutes les petites circonstances que nous avons fidèlement rapportées et qui lui servaient de présage. Elle rêva, elle qui était si chaste et si pure, et cette partie de son rêve lui donna la souffrance horrible du cauchemar. Elle rêva qu'après bien des combats, Argot se trouvait à côté d'elle, sur son propre lit virginal, dans cette chambre de Paris que nous avons décrite au commencement de cette histoire. Là, une fois que cet être extraordinaire y était parvenu, elle éprouvait de lui une multitude infinie de soins et de délicatesses, un respect même qui ne semblait pas compatible avec les manières et le caractère qu'on devait supposer à son époux d'après son aspect. Car, en effet, elle se rappelait l'avoir épousé. Mais cette souvenance, dans son rêve, n'arrivait qu'alors que M. de Durental franchissait l'obstacle qu'Annette avait élevé entre elle et lui. Cette jeune fille, poussée par l'influence absurde du rêve, triomphait de sa propre pudeur et de toutes ses idées. Enfin, pour vaincre le respect étonnant de ce singulier être, qui voyait en elle une divinité et la traitait comme telle, Annette folâtrait et badinait avec lui. Elle jouait, et en jouant, elle prenait cette tête énorme aux cheveux bouclés et l'appuyait sur son épaule d'albâtre, passait sa main dans la chevelure, et par ses caresses enfantines et pures, elle semblait l'encourager. Pourquoi ? Elle l'ignorait, mais une chose qui la flattait au dernier degré, c'était de voir deux yeux étinceler et se baisser tour à tour. Ce fut alors que, posant cette tête sur son sein, elle aperçut sur le cou une ligne rouge imperceptible, fine comme la lame d'un couteau, et cette ligne, rouge comme du sang, faisait le tour du cou de son époux, précisément au milieu. À peine ses yeux eurent-ils vu cette marque qu'une sueur froide la saisit et l'arrêta. Comme une statue, elle garda la même attitude. Elle voulait parler sans le pouvoir, et une horrible peur la glaçait. Elle s'éveilla dans les mêmes dispositions, tremblante, effrayée, et son cœur battait si fortement qu'il ressemblait, par son bruit, à une voix entrecoupée. Dans les idées d'Annette, un rêve était un avertissement, émané du domaine des esprits purs, qui saisissait l'instant où le corps n'agissait plus sur l'âme pour guider, par des images informes de l'avenir, les êtres que leur amour pour les cieux rendait dignes de l'attention spéciale de ces esprits intermédiaires qui voltigent entre la terre et le ciel. Or, ce rêve avait une signification qu'Annette n'osait même pas entendre. Et, dans son appartement faiblement éclairé par sa lampe, elle tâchait de ne rien regarder, parce qu'elle tremblait d'apercevoir cette tête de son rêve, et par-dessus tout, elle voulait oublier cette ligne de sang. Elle se rendormit pourtant, après avoir secoué sa terreur. Mais elle revit encore en songe, et dans un songe dénué de toutes les circonstances du premier, cette même tête, scindée par cette même ligne qui semblait marquer son époux d'un horrible sot. Les teintes fraîches et pures de l'aurore la trouvèrent encore dans cette même horreur, mais en proie à l'irrésolution et à tout le vague de l'interprétation d'un tel songe. Elle s'agenouilla, fit sa prière, non pas une prière verbale, telle que souvent l'on en inculque aux jeunes gens par l'effet de leur belle mémoire, mais une prière mentale, dans laquelle elle rassemblait toutes les forces de son âme pour prendre un essor vers les cieux. Se réfugiant ainsi, par un élan sublime, dans le sein même de la grande Providence qui régit les univers qu'elle a créés, Annette, plaintive et soumise, demandait, face à face au Dieu que sa méditation lui faisait entrevoir, le bonheur auquel chaque créature a droit, ou tout au moins la force de la résignation et le courage de supporter les épreuves de son pèlerinage terrestre. Annette, après cette prière, se trouva comme soulagée. Elle venait en quelque sorte de déposer le fardeau de sa crainte aux genoux du Père des hommes. C'était à Dieu à veiller désormais sur elle, sur la plus confiante de ses créatures, sur celle qui, par instinct de sentiment, croirait à Dieu quand même un athée prouverait que l'être suprême n'existe pas. Elle se leva, ouvrit la fenêtre qui donnait sur les jardins et le parc, et après en avoir franchi les trois marches, elle admira la vue étonnante de beauté que lui présentèrent toutes les belles campagnes de Valence, comme inondées des flots de la lumière du soleil levant. Elle se promena en admirant la beauté du parc, mais plus encore la magnificence des bâtiments immenses de Durental. « Cela est bien beau !» se disait-elle. Mais, ramenée partout à ses idées religieuses, elle ajouta « Mais Dieu seul est grand !» En parcourant les jardins, elle arriva à la cour d'honneur du château, et, après l'avoir examinée, elle vit une autre cour, dans laquelle des valets nettoyaient une calèche élégante. Annette entendit les valets causer entre eux, et le fragment suivant de leur conversation la convainquit de la pureté des intentions du généreux possesseur de Durental. « Pierre, disait un monsieur qu'Annette ne voyait pas, vous mettrez à la calèche les deux chevaux blancs. Monsieur va aller dans l'instant à Valence, et c'est Jean qui le conduira. » Annette, par suite de sa croyance que nul ne faisait mal, n'avait pas été inquiète. Elle ne s'était alarmée que pour sa mère. Cependant, la phrase qu'elle venait d'entendre lui causa une espèce de satisfaction. Il était clair que son hôte allait la reconduire à Valence chez sa mère. Chapitre 9. Alors Annette ne se trouvait pas loin de la porte d'entrée du château. Mais comme cette porte était décorée d'un hémicycle en pierre à l'extérieur, Mademoiselle Gérard était cachée par le renflement de ce demi-cercle à l'intérieur. Elle contemplait le château et restait pensive, car un pressentiment invincible, malgré tous les présages du malheur et son opposition présente, lui faisait regarder ce château avec l'idée qu'il lui serait de quelque chose. En ce moment, un homme franchit la porte et s'avance vers le château. Annette le vit et frémit. Cet homme était celui qui avait dansé avec elle la veille, et qui, d'une main insolente, avait osé l'enlever et la mettre dans l'infernale voiture. Aussitôt, elle s'échappa par le côté des jardins, et, avec la vélocité du lièvre poursuivi, elle regagna sa chambre, et sonnant avec force, elle ordonna à la femme de chambre qui accourut de dire à monsieur de Durental de venir sur le champ. Argot ne tarda pas d'une minute. Annette était dans le salon qui précédait la chambre dans laquelle elle avait passé la nuit. « Monsieur, dit-elle avec une dignité et une énergie étonnantes, l'homme qui m'a enlevée et qui a porté les mains sur moi vient d'entrer chez vous comme si le château lui était familier. » Ayant donné à cette phrase l'air d'une interrogation, elle fixa les yeux d'Argot qui lui répondit sur le champ. « Mademoiselle, je l'ignore.
mais quel qu'il soit, vous verrez jusqu'où ira ma vengeance. »
« Pourquoi vous venger ? » dit Annette. « Il n'a offensé que moi. »
À ce moment, un domestique entra et dit à Max Sandy, « Monsieur, un inconnu vous demande. »«
Son nom ?»«
Navardin, » répliqua le domestique.
« Mademoiselle, » dit Argot en se tournant vers Annette, « ayez la complaisance de rester ici. »
Max Sandy se rendit à son grand salon, s'assit dans un fauteuil, dit qu'on pouvait faire entrer le ravisseur d'Annette et ordonna que tout le monde se retirât.
« Capitaine, » dit Navardin en entrant et gardant son chapeau sur la tête,
« tes gens ont décrété que tu te rembarquerais avec eux, et comme tu dépends d'eux, il faut que cela soit. »
« Navardin, » reprit Max Sandy d'un ton de voix dont le flegme affecté cachait la plus violente colère, « tu remarqueras que tu m'as appelé ton capitaine, que tu as dit mes gens. »
« Continue. »
« Eh bien, » continua Navardin, tremblant malgré tout son courage, « je viens chercher ta réponse. En effet, tu as dénoncé tous tes anciens camarades à la préfecture. Ils sont forcés de fuir, ou courent les plus grands dangers. Ils sont sans fortune et veulent en acquérir. Or, pour n'avoir plus à te craindre, ils t'appellent au milieu d'eux. Les possessions espagnoles sont révoltées, on peut courir la mer sans honte en se mettant à leur service. »
« Navardin, » répondit Argot d'une voix toujours croissante en force et en terreur, « si j'ai dénoncé mes anciens camarades, c'est qu'ils m'y ont forcé pour mon salut. S'ils n'avaient rien dit en m'apercevant dans la diligence, on ne m'aurait pas soupçonné. Il a été clair pour tout le monde que je devais vous connaître. Obligé de parler, j'ai raconté à Badger non pas ce que je savais, mais une histoire faite à plaisir. Voilà pour un point. Mes gens veulent de l'or, qu'ils aillent en chercher. Mais à qui prétend-on que j'obéisse? Est-ce à eux à m'intimer des lois? Réponds, tu te tais. Je le crois, car c'est à eux d'en recevoir. Ils sont sans fortune, dis-tu, c'est qu'ils l'ont mangé, car chacun a eu sa part, et le dernier matelot a eu 100 000 écus au moins, sans compter ce que vous mangiez toutes les fois qu'on descendait à terre. Est-ce vrai?
Oui,
répondit Navardin interdit. « Tu crois que je dépends d'eux ?» reprit Argot en imprimant à sa voix un caractère terrible. « 1000 bombes, je ne dépends de personne au monde, et un pistolet me fera toujours raison de ma vie. Je ne l'ai pas risqué 100 000 fois pour la marchander maintenant. Je me moque de vous tous comme d'une allumette d'un liard. Et si vous avez le pouvoir de me faire bouger d'une ligne, vous serez des dieux. »
« Nous l'avons, » dit Navardin.
« Et comment ? » ?»«
Chacun de nous peut te dénoncer à l'instant. »
« Ce serait un grand imbécile, car d'abord, ou il serait gueux et voudrait de l'argent, ou il serait riche et aurait quelque chose à perdre. Riche, il ne me dénoncerait pas parce qu'il périrait avec moi. Et gueux, je lui donnerais tout ce qu'il me demanderait. Après, je ne le craindrais guère, il se serait désigné. »
Ici, la figure d'Argot, revenue à toute sa férocité primitive, exprimait par son seul aspect tout ce qu'il taisait.
« Ce n'est pas tout, » dit Navardin. « Écoute, nous t'avons juré le secret et nous te le garderons. Mais nous avons pris un autre moyen. Nous savons qui tu aimes. »
« J'en suis bien aise, » dit Argot en saluant ironiquement Navardin.
Et nous tenons en notre pouvoir la jeune fille que tu voudrais... »
« Qui l'a enlevée ? » s'écria d'une voix formidable Argot en se levant et interrompant Navardin.
« Réponds !»«
Moi ? » cria Navardin.
« Ah ! C'est toi qui as porté sur elle des mains sacrilèges ?»
Le terrible Max Sandy faisait trembler par sa voix les vitres de l'appartement. Il sauta sur le brigand et, le saisissant par le collet de son habit, il le contraignit à le suivre.
« Ah ! Disait-il, c'est toi qui as souillé par le contact de tes mains celle que nul n'est digne de toucher ? Viens ! Viens !»
Et il l'entraîna. Il lui fit traverser tout l'appartement et le jeta tout effrayé aux pieds d'Annette étonnée.
« Mademoiselle, lui dit-il, voici le coupable.
Navardin, lève les yeux.
Et, d'un coup terrible, il lui prosterna la tête sur les pieds mêmes d'Annette, à laquelle il dit « Mademoiselle, foulez sa tête avec vos pieds, dégradez-le, vengez-vous »
« Monsieur, dit Annette, tremblante à l'aspect de Max Handy, en proie à une si violente colère,
monsieur, je désire qu'on le laisse tranquille. Laissez, je lui pardonne. »
« Vous pouvez lui pardonner, mais moi, je verrai. »
Ce que ce dernier mot cachait n'était certes pas l'idée de la clémence. Laissons pour un moment Argot, Navardin et Annette dans cette singulière situation et retournons à la porte du château. Vernier y était accouru parce qu'il avait aperçu Annette s'enfuir à toutes jambes et comme Navardin était déjà entré, il ne savait à quoi attribuer cette course précipitée. Lorsque, regardant dans la campagne, il vit au bout de l'avenue 5 à 6 personnes qui se dirigeaient vers le château. 3 de ces personnes étaient vêtues de noir, et un homme en robe noire les guidait. Vernier crut qu'Argot et lui étaient découverts, et il cherchait en sa tête les moyens de se soustraire à cette attaque. Mais pendant qu'il réfléchissait, le procureur du roi arriva près de lui. Ce procureur du roi était Charles, soutenu d'un juge d'instruction et d'un commissaire. Il avait, comme on voit, fait diligence et brûlait de mettre à exécution ses projets contre son rival.
« Que veut monsieur ?»
demanda Vernier d'un air arrogant. « Monsieur, répondit Charles Servigné, c'est moi qui interroge et ne le suis jamais. »
« Encore faut-il que je sache, répliqua Vernier, à quel titre, comment et pourquoi vous entrez à Durental ?»«
Nous venons, répliqua plus doucement le juge d'instruction, faire des perquisitions relativement à une accusation d'enlèvement qui est portée contre monsieur de Durental, au sujet d'une jeune demoiselle nommée Annette Gérard. » Ces paroles firent sourire légèrement Vernier, qui, regardant alors le nouveau procureur du roi, le reconnut, lui tendit la main, lui prit la sienne et lui dit
« Et c'est notre cher compagnon de voyage. Entrez, monsieur, vous serez bien reçu à Durental, de quelque manière que vous y veniez, en costume ou sans costume.
Diable, la justice valençaise est expéditive !» Charles ne savait quelle contenance tenir. Ce ton léger n'annonçait pas des coupables. Il répondit néanmoins
« Monsieur, ne retardez donc pas son expédition. Conduisez-nous au château avant que vous n'y semiez l'alarme. »
« Pierre, dit Vernier, conduisez ces messieurs au salon. » Cette phrase sèche, plus sèchement dite encore, accompagnée d'un coup d'œil sur Charles, lui fit pleuvoir en quelque sorte le mépris sur la tête. Servigné se sentit violemment outragé, et Vernier ne négligea rien pour cela, car il s'en alla lentement sans saluer le groupe. Pendant que l'on dirigeait Charles vers le salon, Vernier cherchait Argot, et il le trouva, au milieu de la scène que nous avons interrompue pour raconter ce nouvel incident.
« La justice, dit-il tout haut, vient de descendre ici. »
Ces mots produisirent un notable changement. Navardin se leva brusquement, Argot porta sa main dans son sein, Vernier se mit à rire, et Annette, étonnée, contempla ce tableau curieux.
« Sors, dit Argot à Navardin, ce n'est pas à la justice à te punir. »
Navardin sortit par le jardin, et Argot le suivit en le guidant vers une cave dont l'entrée se trouvait dans une grotte en rocaille. Lorsqu'ils y entrèrent, Max Handy lui dit d'un ton inflexible « Navardin, il faut périr, car j'ai décidé que ce serait ta punition pour avoir osé profaner par le contact de tes mains celle que j'ai choisie pour moi. Ai-je jamais seulement regardé vos maîtresses lorsque vous en aviez? N'as-tu pas manqué à l'obéissance et au respect que tu me devais? Or, où la justice n'a pas de prise, car je serais fâché de te voir entre ses mains, ma justice à moi s'exerce. Obéis à ton capitaine. Avance. »
c'est ton dernier pas. »
Navardin, en entendant cette sentence sortir de la bouche de son ancien chef, trouva qu'il était dur pour lui, qui était devenu à son tour capitaine, de périr de cette manière. Alors il se retourna brusquement, et tirant un pistolet de son sein, il ajusta, presque à bout portant, son ancien capitaine, auquel il enleva une boucle de cheveux. « Ah !» dit ce dernier en passant la main sur son front avec tranquillité, « tu es digne de moi !» En achevant ces mots, il ne lui laissa pas le temps de saisir son second pistolet. En effet, Argot prit Navardin à bras le corps, le renversa par terre avec une force si grande qu'il ne pouvait opposer aucune résistance. Réunissant alors les deux mains du brigand sur sa poitrine, il les y fixa d'une manière invariable en les tenant sous son pied de fer. Et pendant que Navardin cherchait à se sauver de cette espèce d'étau, Argot tirait tranquillement de son doigt une bague d'or dans laquelle se trouvait une épingle. Il la prit et, la plongeant dans la poitrine du brigand, ce dernier expira, aussitôt que la pointe de cette arme d'un nouveau genre eut atteint le sang d'un vaisseau. Maxandy revint vers la chambre d'Annette, tranquillement, et comme s'il eût accompli un devoir. Pendant qu'il avait ainsi vengé Mademoiselle Gérard, il s'était passé une autre scène très intéressante. En effet, lorsque l'on eut introduit Charles et sa troupe dans le salon, au lieu de s'y arrêter, il avait continué. Et, pénétrant jusqu'à la chambre où se trouvaient Annette et Vernier, il fut stupéfait de revoir sa cousine, qu'il croyait sous des verrous. En l'apercevant ainsi libre, son esprit malicieux en conclut sur-le-champ qu'elle s'était fait enlever volontairement. Et pour excuser aux yeux du public son amour pour M. de Durantal, par l'idée que la force employée à son égard l'avait jetée à la merci des ravisseurs. Alors, satisfait de pouvoir se venger du mépris qu'Annette avait pour lui, et cela à la vue de tout le monde, il lui dit d'un ton plein d'affection et comme un père à sa fille, « Êtes-vous libre, Annette ?»«
Oui, Charles, » répliqua-t-elle en appuyant sur cette syllabe.
« Oh, Annette !» reprit Charles Servigné. « Si vous êtes ici volontairement, quelle singulière comédie la passion vous a fait jouer devant une assemblée tout entière. Vous n'en avez sans doute pas prévu les effets, car j'ose croire, si toutefois votre caractère religieux ne m'en a pas imposé, que vous eussiez renoncé à votre dessein. Votre mère est au désespoir. Elle a pleuré toute la nuit, demandant sa chère fille à chacun. Cette nuit, qui, pour les nouveaux mariés et pour votre tante, devait être une nuit nuptiale, a été une nuit de désolation. Moi-même, ardent à venger avec vous l'ordre social, j'ai armé les lois d'une célérité qui leur était inconnue. Je me suis hâté, mes soupçons ont été bientôt pour moi des réalités. J'arrive, je vous trouve, et quelques heures ont suffi pour tout apaiser entre vous et votre ravisseur. Oh, Annette, vous, si religieuse, si grande, si candide, si pure, où vous retrouvais-je? Quel chagrin pour madame votre mère! Il l'emportera au tombeau. Le groupe, en entendant ces artificieuses et vindicatives paroles si bien colorées d'un air de vérité par les circonstances, trouva que le nouveau procureur du roi avait une éloquence touchante. Mais Vernier, qui étudiait Charles et semblait lire dans ses yeux, devina que ce discours n'était pas sincère. D'un autre côté, il était bien aise de voir Annette dégradée dans l'opinion publique, parce qu'alors, Argot n'en ferait pas sa femme. Et cependant, la haine secrète que le visage de Charles faisait naître en lui fut cause de sa réponse. « Monsieur, lui dit-il, « à l'instant où vous trouvez ici mademoiselle libre, vos fonctions cessent. Vous devriez vous retirer et lui épargner vos inconvenants discours. »« Êtes-vous son ravisseur ?» lui demanda Charles.
« Si je l'étais et qu'elle l'aima, comme vous le supposez gratuitement, je vous aurais déjà jeté par la fenêtre. tout procureur du roi que vous êtes. »
À ces mots, Cargo entendit, il entra, et sa figure prit une expression terrible à l'aspect de ce groupe. Annette, comme une vierge au pied de la croix, était tellement accablée sous le poids du perfide langage de son cousin que, semblable à un agneau que l'on frappe, elle regardait fixement Charles sans pouvoir répondre un seul mot.
« Monsieur, reprit Charles avec une grande dignité, ce que je dis à mademoiselle, je ne le dis pas à titre de magistrat, c'est à titre de père, de cousin, d'ami. »
« Mon cousin, mon ami, mon père !» reprit Annette les larmes dans les yeux. « Aurait pu me dire cela en particulier. Il se serait surtout informé si j'avais été enlevée volontairement avant de le supposer. Il ne m'aurait pas mis la mort dans le cœur en me disant que je tue ma mère. »
Ici, les larmes d'Annette devinrent si fortes qu'elle ne put achever. Elle tomba dans un fauteuil en se cachant le visage, et des sentiments bien divers s'emparèrent des cœurs.
« Qui l'a fait pleurer ici ? » s'écria Argo, en lançant un foudroyant regard qui fit trembler tout le monde. Il palpitait de rage et semblait chercher sa victime.
« Je le saurai, » dit-il. « Malheur à lui !»«
Monsieur, » dit Annette, sublime d'effroi, « vous me perdez en prenant ma défense. » « Dites-leur donc que vous m'avez sauvé, que vous alliez me reconduire à l'instant, que... Je ne sais, le monde pensera ce qu'il voudra, mais ma conscience est pure, elle est muette à me reprocher la moindre chose. Et Dieu, ma mère, mon père aimé sont mes seuls juges. Mais, mon généreux libérateur, cessez de parler comme si je vous étais de quelque chose. Il n'y a entre nous d'autre lien que celui de la reconnaissance. »
« Qui peut expliquer un tel mystère ?» demanda le juge d'instruction.
« Est-il besoin de l'expliquer ?» reprit Argo.
« Mais, s'écria-t-il, je vais vous parler à tous. Vous allez retourner à Valence, écoutez-moi bien, et suivez de point en point ce que je vais dire. On a enlevé mademoiselle. Je me promenais avec mon ami que voici, hier soir, et j'ai de loin aperçu une voiture de laquelle partaient des cris. J'ai couru, j'ai délivré mademoiselle. Il était trop tard pour la reconduire à Valence. J'allais le faire ce matin quand vous êtes venu. Mademoiselle a passé la nuit au château de Durantal. Voilà la vérité. Si dans Valence, un être ose tirer de ceci une conséquence défavorable à mademoiselle, je jure que lui ou moi périrons. Et que, si je péris, celui que voilà me vengera.
« Oui, » dit Vernier.
« Ce n'est pas tout, » reprit Argo. « Je vous permets de publier partout que j'aime mademoiselle, qu'elle a en moi un serviteur, un ami dévoué, que si jamais je me marie et qu'elle me permette d'oser aspirer à elle, je n'aurai jamais d'autre femme, que quiconque lui fera mal lui nuira, sera mon ennemi capital. Que dussé-je dépenser 1 million, je la protégerai désormais contre toute attaque. Et quiconque osera tirer de ceci une conséquence défavorable, je jure qu'alors il mourra, car il m'aura fait insulte. Ou si je meurs, monsieur que voici me vengera. »
Oui, dit Vernier.
Maintenant, messieurs, dit Argo en changeant subitement de ton. « Vous voulez-vous prendre quelque chose ? Pierre, des sièges !»«
Quoi qu'il en soit, » dit Charles, « ceux qui ont enlevé mademoiselle Gérard avaient un but, et la société ne doit pas rester sans vengeance. Notre ministère nous impose le devoir de chercher ce but et les auteurs de l'enlèvement. »
Ici, Argo reconnut en Charles le jeune homme de la diligence. Cette reconnaissance lui fit froncer le sourcil, et sa physionomie reprit un caractère terrible.
« Jeune homme, lui dit-il, vous vous trouvez sur mon passage dans la vie. »
Il y avait un sens à ces paroles. Elles firent impression sur l'assemblée.
« Vous y êtes mal. Prenez garde. »
Argo ne dissimula en rien l'aversion qui lui dicta ces derniers mots.
« Je n'ai fait que mon devoir, dit Charles.
et nulle considération ne m'empêchera de suivre toujours ce qu'il m'indiquera. Mais je dois vous prévenir que ma cousine a tout mon amour, qu'elle m'est promise. »
C'est faux !
S'écria Annette en voyant Argot dévorer Charles des yeux.
« Je n'ai aucun motif qui ne parte de la vérité pour démentir ainsi mon cousin. Charles, vous savez que nous ne sommes rien l'un à l'autre, et quand cela n'aurait pas été déjà, le discours que vous venez de tenir tout à l'heure sur une amie que vous connaissez dès l'enfance aurait suffi pour briser tout lien entre nous. Je comprends votre regard ironique, Charles, mais sachez que je n'ignore pas que je suis à Durantal. Que le maître n'entre pour rien dans ma protestation, et que ce qu'il a dit tout à l'heure n'a pas plus influé sur mon âme que mon image sur la glace que je vois en ce moment. J'ignore qui m'a enlevé, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas monsieur, car depuis que je suis ici, il ne m'a pas encore dit trois phrases. Vous me connaissez, Charles, et votre conscience doit vous crier que rien que la vérité ne sortira jamais de la bouche d'Annette.
« Maintenant, monsieur, » dit-elle à Max Sandy, « ordonnez, je vous prie, qu'on me reconduise seul à Valence. Malgré le plaisir que j'aurai à être présentée à ma mère par mon libérateur, je sens que... »«
Non, mademoiselle, votre cœur vous dira, » répondit Argot, « que l'opinion d'être aussi éloignée de votre nature n'est rien. Permettez que j'ose réclamer l'honneur de vous accompagner. » Si vous avez passé une nuit sous les voûtes de Durantal, vous pouvez, sans qu'il n'en soit ni plus ni moins, être reconduite à votre mère par moi.
C'est vrai, dit Annette, ne pas le faire ce serait reconnaître du mal, et il n'y en a aucun.
Dans cette matinée, le caractère d'Argot venait de se déployer tout entier. Annette avait brillé de tout le lustre de l'innocence, et Charles se montra tel qu'il devait toujours être, enclin à satisfaire ses passions sous le masque de l'intérêt général, orgueilleux, mais, par cela même, susceptible de sentiments nobles. On déjeuna. Tout le monde fut réuni autour de la même table, mais le déjeuner fut froid de conversation. Le juge d'instruction eut mille égards pour Annette, surtout pour le maître de la maison, qu'il savait être l'ami intime du préfet et riche à millions. Il lui parla de sa terre, du pays, de Valence, et parut enchanté qu'une semblable méprise lui eût procuré l'honneur de se trouver avec monsieur de Durantal. Méprise qui, du reste, n'avait été faite que sur la volonté de monsieur le procureur du roi. Argot, à cette phrase par laquelle le juge rejetait tout sur Charles, regarda Servigné avec une horrible expression de haine. Le déjeuner fini, on monta en voiture. Annette fut seule au fond de la calèche. Son cousin et Argot se mirent sur le devant. Les autres personnes eurent leur voiture et l'on partit pour Valence. En chemin, Annette dit à monsieur de Durantal que, toute flattée qu'elle devait être de lui avoir inspiré les sentiments qu'il avait manifestés, elle le conjurait de n'y point persister et surtout d'empêcher que les circonstances de cette matinée, sous ce rapport, devinssent publiques. Argot resta muet.